Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
Il est 14h05, soyez les bienvenus sur RMC pour un nouveau grand week-end de sport et notamment aujourd'hui, jour de finale pour l'Union Bordeaux-Bègles. C'est du côté de San Mamés à Bilbao, la finale de la Champions Cup, 15h45. Le rendez-vous est pris face au Leinster. On va vous présenter toutes les dernières infos, bien sûr, autour de cette rencontre. Nos reporters déployés un petit peu partout à Bilbao, mais aussi à Bordeaux, où la fête s'annonce folle, bien sûr, pour soutenir l'Union Bordeaux-Bègles, déjà tenant du titre de cette Champions Cup et qui va tenter le doublé cet après-midi face au Leinster. Grand après-midi de sport sur RMC puisqu'on suivra aussi la suite des festivités du Racing Club de Lens qui a battu hier en finale de la Coupe de France 3-1 l'OGC Nice. La nuit a été très très courte du côté du Nord et de Félix Bollaert. On sera avec Kevin Morand dans quelques instants pour savoir si tout le monde est bien levé parce que la parade c'est dans quelques minutes. Et puis un mot aussi bien sûr sur Roland Garros à J-1, on connaît le tableau féminin et masculin. On va prendre des nouvelles d'Arthur Fils qui s'est entraîné ce matin notamment, mais aussi Loïse Boisson. Ils démarreront tous les deux leur tournoi lundi. Et puis on parlera bien évidemment de cyclisme puisque le Giro continue. On sera sur les routes du Tour d'Italie dans quelques instants avec Johan Bredov. Et puis on parlera bien évidemment Formule 1 puisqu'il y a le sprint et les qualifs du Grand Prix du Canada aujourd'hui sur RMC. C'est parti pour l'Intégral Sport. Et avant de parler de tout ça, un jeu déjà pour vous faire gagner ce week-end, c'est le nouveau jeu RMC, la liste des 26. Vous pouvez jouer avec nous, vous allez peut-être remporter 10 000 euros, vous avez bien entendu. Choisissez donc votre joueur préféré et gagnez 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde, c'est-à-dire vidéoprojecteur, plus maillot des bœufs, plus ballon officiel et plus boîte Lego du trophée, ça fait beaucoup. Restez bien à l'écoute et au moment du top inscription qui se passera tout à l'heure, vous aurez alors 5 minutes pour envoyer le mot liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Bonne chance à toutes et à tous. Et puis, surtout, d'abord, je vous le disais, les routes du Tour d'Italie, parce que c'est pas encore l'étape reine, mais on peut le dire ça comme ça, c'est l'étape princesse aujourd'hui, c'est la 14e étape de ce Giro et on accueille Johan Bredov. Salut Johan.
Salut Alex, salut à tous.
Ça va devenir compliqué à partir d'aujourd'hui, le peloton craint déjà les fortes chaleurs mais aussi les routes qui montent.
Ouais, il fait chaud, il fait très beau et tu le disais, l'étape princesse, oui c'est la deuxième plus difficile étape de ce Giro d'Italia. Faudra attendre l'étape reine pour la 19e étape la semaine prochaine, mais celle-là, elle est compliquée. 5 ascensions au programme, dont cette montée vers Pila pour l'arrivée tout à l'heure, 16,6 km et des pentes à 7% de moyenne, des pentes assez régulières donc pendant ces 16 km. Le peloton et les échappés qui ont déjà gravi la première ascension, le col de Saint-Barthélemy qui était d'entrée, ils sont dans la descente. On a 23 hommes en tête avec notamment des coureurs qu'on connaît bien, Enric Mas, Giulio Ciccone, David de la Cruz, le mieux classé au général, 16e pour le moment, Alexander Vlasov ou encore les trois du AE, Igor Arrieta, vainqueur d'une étape, Yann Christen ou encore Jonathan Narvaez. 1 minute et 35 secondes d'avance pour tous ces hommes sur le peloton du maillot rose, toujours porté par Afonso Eulalio. 33 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard.
Merci Johan, on te retrouve tout au long de l'après-midi donc pour cette 14e étape du Giro. Il y a un an, ils battaient Northampton en finale de la Champions Cup, leur premier trophée européen. L'Union Bordeaux-Bègles remet ça cet après-midi, 15h45, face au Leinster.
Marco Gazzotti, il me semble, sur ce soutien de Maxime Lucu, qui a éjecté le ballon à une vitesse phénoménale. L'essai bordelais, Louis Bielbiaré, 8e essai de la compétition pour le meilleur joueur du dernier tournoi destination. Jalibert qui fait la passe pour Huberti, à l'intérieur il y a Lucu, Lucu qui la récupère, Lucu pour Moefana, oh Palu, oh oui, oh oui, oh non, il est plaqué à 2 mètres, même pas à 30 cm, faut la relever. Maxime Lucu, essai, oh est-ce qu'il a aplati, ouais essai. Union Bordeaux-Bègles, quelle séquence! Le ballon est tombé, c'est! Et ça, c'est mon Mathieu! Bordeaux va défendre son titre à Bilbao! Quelle séquence encore de l'UBB qui ne s'arrête pas de jouer! Ça fait 36-19 à 3 minutes de la fin. Bordeaux va pouvoir défendre son trophée en Champions Cup face au Leinster!
Et c'est Union Bordeaux-Bègles, une phrase que l'on espère entendre très souvent entre 15h45 et 17h45. Aujourd'hui, la finale de la Champions Cup. Il sera bien sûr avec nous pour présenter cette grande finale. Monsieur Johan Huger, bonjour.
Salut Alex, salut à tous.
Les jours de finale, qu'est-ce qu'on adore ça?
C'est très bon, hein. Il fait très chaud. Ça y est, c'est parti. Hein. On a envie de mettre les crampons, de participer avec ces Bordelais parce qu'ils représentent la France. Et on est de tout cœur avec eux pour qu'ils remportent cette deuxième étoile.
Tu l'as dit, Johan, il va faire très chaud, il fait très beau et la température monte encore du côté de San Mamés à Bilbao. On va retrouver tout de suite celui qui commentait si bien ces joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles il y a quelques instants, monsieur Nico Paolorsi, est déjà avec des supporters girondins. Salut Nico!
Salut les amis, salut à tous. J'ai pas mis la casquette mais c'est vrai qu'il fait très très chaud à Bilbao là en plein soleil, ça va être une donnée de ce match aussi. Et j'ai retrouvé Alain, les amis. Alain, il a 66 ans, c'est un supporter de l'Union Bordeaux-Bègles. Il est parti il y a 3 jours de Bordeaux. Vous allez me dire pourquoi il est parti il y a 3 jours de Bordeaux?
En vélo.
Il est parti en vélo, exactement. Il s'est fait les 400 km pour arriver à Saint-Mamès tout à l'heure. Alain, quel périple vous faites quand même là pour soutenir votre équipe, hein.
Mais oui, c'était un beau périple, c'était une belle aventure. J'ai croisé que des gens sympathiques. Et puis j'ai eu cette idée parce que j'ai un vélo aux couleurs de l'UBB et que je suis supporter de l'UBB depuis toujours.
Ouais, j'ai vu, vous avez même les petits bidons. Enfin voilà, très corporate, hein. Ah là là, on pouvait pas vous louper là dans les, sur les routes.
Mais oui, union, UBB, UBB, à fond.
Bon là, il va y avoir une ambiance de fou. Alain, deuxième finale consécutive pour l'Union Bordeaux-Bègles. C'est un truc de dingue quand même pour ce club-là. D'être aussi présent en phase finale et de pouvoir gagner une deuxième étoile.
Oui, c'est un truc de dingue, mais c'est pas le hasard parce qu'il y a une très très bonne équipe, il y a un très bon staff. On sent qu'il y a une osmose entre les joueurs et ils jouent très bien. Tous ensemble et ça va le faire. Deuxième étoile. Moi, je veux ramener la deuxième étoile avec eux.
Rassurez-vous, vous rentrez pas en vélo, Alain.
Non, je rentre pas à vélo. J'avais mis le souhait de rentrer avec les joueurs dans le bus, mais je crois qu'ils sont venus en avion. Mais bon, j'espère les rencontrer après, si c'est possible.
Oui, bien sûr, ça va faire la fête ce soir à Bilbao. Alain, merci beaucoup. Il y a plein de supporters de l'UBB là, hein, les amis sur le parvis, franchement. Et il y a les Lensterben aussi qui commencent à arriver et qui commencent à faire la fête. C'est une superbe ambiance à Bilbao.
Profite bien. Merci Nico Paolorsi en direct de Bilbao où aura lieu donc cette finale de la Champions Cup, coup d'envoi 15h45 sur RMC, bien évidemment. Johan, on a vu que c'était déjà chaud à Bilbao. On va se poser la question si c'est le cas aussi du côté de Bordeaux, où bien sûr ceux qui n'ont pas pu aller du côté du Pays Basque aujourd'hui vont soutenir les Girondins depuis là-bas, cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Pour RMC, on retrouve Romain Asselin. Salut Romain, est-ce que l'ambiance monte également à Bordeaux?
Salut Alex, salut Johan, salut tout le monde. Pas encore. Franchement, ils sont pas encore chauds les Bordelais aux abords de Chabandelmas, qui est l'une des fan zones. Il y en a une bonne dizaine, hein, même une vingtaine, tu comptes les bars, les restaurants qui retransmettent ce match. Mais là où il faut être, effectivement, cet après-midi, c'est à Chaban. D'habitude, c'était sur la place des Quinconces, mais il y a un festival électro ce week-end, donc pas possible. On a rapatrié tout le monde dans la maison. Il y a aussi une fan zone devant le Stade Atlantique où l'UBB a joué notamment sa demi-finale. Ouverture des portes dans quelques minutes. Hein, c'est imminent, hein, 14h15. Mais la plupart des tribunes sont quand même exposées plein soleil. Donc pour l'instant, j'ai croisé quelques supporters aux abords du stade, mais on se tient au froid jusqu'au dernier moment avant de faire monter la sauce. Début des animations ici à 15h10. Et puis, quand même 20 000 supporters. Hein. Il y aura quasiment la moitié du stade qui sera rempli ici pour voir ce match sur un écran géant. Franchement, les conditions sont idéales. Hein. N'importe où tu es dans le stade, tu pourras bien voir le match si tu viens ici à Chabandelmas.
Et c'est pour ça que l'antenne est bien ouverte pour toi, Romain Asselin. Tu nous donnes toutes les infos donc depuis Bordeaux où on va suivre ce match, mais on a l'expérience maintenant après la finale de l'année dernière. On reste à l'ombre le plus longtemps possible avant de s'exposer au soleil et donc de monter en température. Merci Romain, à tout à l'heure. Johan, je te propose de faire l'aller-retour. On retourne à Bilbao cette fois-ci du côté de San Mamés, Johan, pour retrouver notre paire de commentateurs.
Où tu veux, mon cher Alex. Où
bien
tu
sûr,
veux,
on va. On y va ensemble parce qu'ils seront avec bien sûr Christophe Cessieux à partir de 15h pour vous faire vivre sur RMC cette grande finale. Ils ont l'habitude, Wilfried Templier, Denis Charvet, bonjour messieurs.
Salut tout le monde.
Salut vous deux, salut Johan. Et Johan a dit il fait chaud, mais en studio, rassure-moi Johan, il fait pas chaud.
Ah non, en studio on est bien monsieur.
Parce que nous la chaleur, Wilfried elle est pas encore là, mais...
Oh, ça commence, hein.
Ça commence.
Hier soir c'était une étuve, le stade San Mamés pour le match de Montpellier.
Et là bon, il y a un peu d'air.
On félicite les Montpellierains pour leur titre d'ailleurs.
N'oublie pas de tirer.
Ah, il y a des bouteilles d'eau de partout.
Mon cardio me l'a dit ce matin au téléphone.
Voilà.
Tout va bien. Là pour vous dire, alors ils annoncent potentiellement un peu moins chaud qu'hier, on le ressent pas, mais il y a une espèce de cercle de soleil sur la pelouse, et avec le public, avec la chaleur, ça s'annonce, et on pense aux joueurs très difficiles.
Et au moment où on parle, c'est les joueurs du Leinster qui rentrent sur le terrain.
Ils viennent reconnaître la pelouse.
Et le stade est magnifique, hein, c'est un stade incroyable, avec une pelouse superbe, il y a toutes les conditions pour faire un grand match. Après, la chaleur peut varier,
peser
sur les organismes, on le sait.
Ouais, justement, Nico Pallorsi nous disait qu'il n'avait pas encore mis la casquette. Vous avez les chapeaux, vous?
Non,
on est à l'ombre. Là,
on est à l'ombre.
Mauvais temps pour les avant, hein, je vous le dis. Mauvais temps. Ben Tamifuna. Attention, Ben Tamifuna quand il va rentrer.
Il rentre quand même une de la fin, donc ça va, Ben.
Ouais, mais bon, 20 minutes à 40 degrés, c'est compliqué pour lui.
Et choc thermique pour les Irlandais, Johan aussi.
Ah oui, choc thermique pour les premières chaleurs comme ça, c'est pour les organismes, c'est terrible.
Oui, parce qu'hier,
on a prévu un water break ou pas?
Alors, hier soir, bizarrement, alors il faisait très très chaud, il n'y en a pas eu un. Et là, cet après-midi, oui, il y en aura un, heureusement d'ailleurs, pour les joueurs.
Et pour le bon déroulement de la finale, bien entendu, c'est une première caractéristique d'ailleurs de cette finale, la température. Un petit peu plus à l'avantage, sans doute, des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles que du Leinster, Johan.
Oui, clairement, le soleil irlandais ne tape pas aussi fort qu'à Bilbao et qu'à Bordeaux. Maintenant, c'est les premières chaleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce temps-là, que ce soit côté français et irlandais, je suppose. Donc.
Mais comment ça se matérialise, Johan? Tu disais les premières chaleurs, ça fait mal quand t'es sur le terrain, justement.
Non, ces premières chaleurs sont terribles.
On cherche la respiration.
Le premier quart d'heure, on cherche la respiration. Le temps ne passe pas. C'est vraiment, vraiment compliqué.
C'est plus dur, Johan, pour les avants quand même.
Ah non, mais c'est très dur pour les avants, ça c'est sûr. Mais les trois quarts, on court, messieurs. C'est pas parce qu'on fait moins de kilos, mais on se déplace un peu plus que les avants.
Oui, mais les avants. Tu as les mêlées, t'as des trucs qui sont.
Vous savez quoi, les arrières aussi se méfient de la chaleur. Justement, écoutez Maxime Lucul, demi-mêlée de l'UBB, sur la chaleur qui va régner cet après-midi.
Forcément qu'il faut prendre en compte, comme quand il y a un peu de vent ou comme quand il y a un peu de pluie, qu'on a un staff qui est vraiment très élaboré là-dessus et sur toutes les petites formes de collations et de boissons pour éviter de perdre le moins d'énergie et d'en garder le maximum pour le match. Il va falloir voir encore plus ce qu'il y a dans les tripes pour chacun, parce qu'il va falloir aller chercher dans nos retranchements. Quand on va être dans le dur, il faudra aller chercher épuiser dans l'énergie. On essaye de garder le maximum de force, mais comment il va falloir s'adapter. Notamment, il y aura sûrement des ballons glissants avec la transpiration aussi. Donc, et je préfère jouer sous un temps comme ça, beau temps, une finale à 15h45, que du vent et de la pluie. Donc, il y a juste à régler un petit peu les derniers détails de la chaleur, mais ça, il va falloir s'accrocher. Je pense qu'on préfère jouer sous le soleil.
Voilà, et qui confirme ce qu'on était en train de dire.
Ça n'inquiète pas donc pour autant, hein, ses propos.
Comment ?
Ça l'inquiète pas pour autant.
Avec un temps comme ça, le ballon est aussi glissant que quand il pleut, messieurs. Il faut, faut pas négliger ça avec la transpiration, les maillots mouillés. C'est pas une partie de plaisir de jouer sous un soleil comme ça.
On va rappeler sans doute les compos d'équipe avec toi, Wilfried.
Oui, avec pour les Bordelais Poirot qui revient de sa suspension, qui n'était pas là en demi-finale face à Basse, Lamotte et Sadi pour la première ligne, Palu et Coleman en deuxième ligne, les troisièmes lignes c'est Pierre Beauchaton et Cameron Woki qui entourent Marco Gazzotti, Maxime Lucu capitaine à la mêlée avec Mathieu Jalibert au centre, Moé Fanard, Damien Penaud aux ailes, Bielbiaré à gauche, Huberti à droite et Rayassi à l'arrière, les remplaçants Barlow, Boniface, Tameinfuna, Swinton, Mathieu, Van Tijfer, Retière et Reus. Bon, 6 avant et 2 3 quarts. Et côté Leinster, première ligne, Porter, Sheehan, Clarkson, deuxième ligne, McCarthy, Ryan, troisième ligne, Jack Conan et Josh Van Der Fier. Le troisième ligne centre sera le capitaine Kylan Doris, Jamison Gibson Park, Harry Byrne à l'ouverture pour la charnière. Au centre, Robbie Henshaw, Gary Ringrose, O'Brien à l'aile droite, le All Black, Rieko Ioane à l'aile gauche. Et à l'arrière, Hugo Kinnan, les remplaçants, Keller, McCarthy, Furlong, Mangan, Digan, McGrath, Frawley et Osborne. Juste pour vous dire que 14 des Bordelais qui étaient inscrits sur la finale l'année dernière sont là, et qu'en face on a quand même, je regardais le moyenne de sélection, ça fait 977 sélections pour les 23 Irlandais, 42 de moyenne pour dire leur expérience. C'est 14 de moyenne pour les Bordelais en face de sélection internationale.
Ouais, deux équipes qui n'ont pas connu la défaite cette saison dans cette Champions
Effectivement.
Cup.
15 victoires de suite même pour l'UBB. Alex, pour l'UBB, qui si elle remporte le match aujourd'hui, battrait le record de La Rochelle, qui est le record absolu de Coupe d'Europe de 15 victoires de rang.
Et La Rochelle qui reste un mauvais souvenir pour le Leinster également, ouais, face aux équipes françaises. Johan, la presse irlandaise notamment va dans un sens. Elle dit l'UBB est le favori dans cette rencontre, même si le Leinster a beaucoup d'armes à faire valoir. Mais pour résister justement à la puissance de feu qu'on a vu de l'UBB dans cette compétition, il va falloir pour le Leinster de serrer le jeu, de multiplier des phases statiques. Quand on a parlé de la chaleur tout à l'heure, ça va être un match quand même très compliqué sur les clés du match pour le Leinster.
Le Leinster, c'est une équipe qui attaque très très fort, hein, d'entrée de jeu sur les 15 premières minutes, a l'habitude de marquer beaucoup de points, et tout est là pour les contrer sur les Bordelais, arriver à maîtriser cette puissance offensive qu'a le Leinster. Mais le faire valoir bordelais n'est pas non plus négligeable, avec des joueurs d'exception surtout devant, hein. On parle beaucoup des trois quarts bordelais, mais le paquet d'avant aujourd'hui depuis deux ans n'a cessé de progresser, hein, sur le côté bordelais.
Denis, tu partages cet avis?
Oui, et en même temps, on connaît leur stratégie. Hein. Elle est simple, elle est pragmatique. C'est vraiment un schéma qu'on connaît, qui est répété, c'est très répétitif. Donc, il faut s'adapter et s'appuyer sur une grosse défense. Hein, Wilfried, on le sait. Renvoyer les Irlandais chez eux, c'est pas facile à faire non plus. Mais après, c'est aller chercher peut-être des pénalités dans les rucks, aller chercher des solutions. Mais ils ont
surtout retardé les ballons, hein, Denis, parce qu'ils ont cette faculté à sortir les ballons.
C'est ce que Bordeaux a fait contre Toulouse en quart de finale.
Hein, les mains sur les ballons, c'est le plus important.
C'est la bataille des rucks, c'est là où ça va se jouer aussi, et puis être discipliné. On le sait, face à ces équipes-là, il faut être vraiment discipliné pour ne pas prendre des pénalités.
Ils sont très forts sur les phases statiques, voilà. Visées, très forts en touche.
Mais les ballons, 93%,
ouais, 93% de réussite en touche pour le Leinster, qui a beaucoup de sauteurs, hein, McCarthy, Ryan, Conan, Doris, et qui confisque le ballon, voilà, à multiplier les temps de jeu. Certainement qu'ils vont tester les arrières bordelais.
On a trouvé quand même des faiblesses contre Toulon. Hein. Toulon qui avait pas fait, qui a fait un grand match. C'était pas le grand Toulon non plus, mais ils ont failli les enquêter.
Qui a joué un peu tard en fait.
Qui a joué un peu tard. Ils auraient pu gagner
sur les extérieurs, sur les côtés.
S'ils avaient plus d'ambition, ils auraient pu l'emporter. On le sait là-bas en Irlande. Et c'est vrai qu'il y avait des solutions. On a vu pour une fois les Irlandais un peu la peine en seconde mi-temps. Donc ça me fait dire que Bordeaux a beaucoup de, avec les trois quarts qui sont les leurs.
Et le banc.
Et le banc, on le sait. Ils ont des arguments à faire valoir pour pas être contré, pour pas passer à côté de cette finale et puis réaliser le doublé.
Oui, il y a l'inquiétude aussi de finir une nouvelle fois malheureux du côté du Leinster, qui, on le disait, a souvent perdu face au club français. La Rochelle, bien sûr, Toulouse plus récemment. On va écouter justement Yannick Bru sur cette équipe de l'UBB qui arrive en tant que tenant du titre.
Le fait d'avoir remporté ce premier trophée l'année dernière, ça a juste débloqué quelque chose chez nous. Ça nous a donné un petit peu plus de confiance dans notre façon de travailler. On a des petits marqueurs comme ça dans la semaine qui peuvent paraître anodins au grand public, mais qui pour nous renforcent notre confiance et notre croyance qu'on est capable de remporter une deuxième fois cette épreuve. Le tout, c'est que cette confiance ne devienne pas de la surconfiance et nous fasse manquer de vigilance, parce qu'on affronte une équipe qui est une référence en Europe depuis une dizaine d'années maintenant.
Et il le disait, Yannick Brut, hein. Yannick Brut, c'est une équipe. Brut, ça sera pour tout à l'heure, bien sûr.
Il est Brut, c'est vrai. Il n'était pas marrant sur le
terrain. Il le disait, c'est une équipe référence en Europe, mais qui a connu des malheurs en finale. Et ça, c'est un facteur quand même non négligeable quand on s'est déjà heurté, qui plus est, à des équipes du même pays en plus. À chaque fois, ça se termine du mauvais côté pour le Leinster.
Johan,
oui.
Parce que c'est ce que tu viens de dire, Alex, c'est paradoxal en fait. Ils ont été champions d'Europe ici même, hein, en 2018, ouais, contre le Racing, et derrière ils ont perdu 4 finales 2019, beaucoup, 22, hein. 23, 24. Il y a dans cette équipe 5 joueurs: Furlong, Ryan, Conan, Encho et Magrat, qui ont perdu ces 4 finales, et 9 joueurs qui ont perdu les 3 autres suivantes. Alors Johan, Denis, est-ce que ils l'ont dans la tête, ou est-ce que, moi je me dis, Johan, quand vous avez eu tant de malchance, tant de pleurs, tant de désillusions, que vous avez une nouvelle chance d'aller la chercher, est-ce que ça va pas décupler leur envie et leur détermination aujourd'hui?
Non, bien sûr que non, ça va pas décupler, parce que si le match est serré, plus ça va
se passer,
psychologiquement, ils vont avoir les genoux qui tremblent, ils vont avoir les dents.
Encore le même scénario.
Le même scénario. Ça va commencer à arriver dans les têtes, à faire le moins de fautes, ils vont moins jouer libérés. Donc, ils vont pas arriver libérés si le match jusqu'à la 60e va être serré, hein, comme ça a l'air de s'annoncer. Donc, psychologiquement, ils sont fébriles, hein, ces mecs.
Et surtout, Wilfried, c'est pas le grand Leinster. La vérité, c'est que c'est un très bon Leinster. On n'a pas de problème, qui est invaincu dans la compétition. Mais c'est pas le Leinster qu'on connaît.
Ouais, mais le grand Leinster a perdu 4 fois déjà. Donc, faut se méfier de dire c'est pas le grand, ils sont pas bien, ils sont truc. Côté bordelais,
il tombe quand même contre une équipe bordelaise quand même qui est redoutable.
Qui a passé sur tout le monde.
Et puis non, mais une équipe bordelaise qui s'est familiarisée avec la Coupe d'Europe.
Oui.
C'est ça surtout. Bordeaux ne passe pas à travers ces matchs. Rarement, enfin, j'ai jamais vu dans cette compétition Bordeaux faible.
Bordeaux impose son jeu et on le sentait. On en parlait dans le podcast entre les poteaux qu'on a fait. En fait, on l'a senti en quart face à Toulouse, en demi face à Basse, que c'était inéluctable.
Ils
mettaient leur rythme, ils contrôlaient leur match et avec leur talent, eh bien finalement, ils arrivaient.
Oui, mais Wilfried, quand tu reçois, c'est facile. T'as l'engouement du public, t'as tout ça qui rentre en jeu. Ah. Moi, aujourd'hui, c'est la question, c'est quelle équipe de l'UBB on va voir. Match à l'extérieur, est-ce que c'est l'UBB qui t'attend un peu en top 14 ou vraiment
celle
qui domine?
On verra, mais je trouve que Johan, ils ont une confiance
grandissante. T'as raison, Johan. Là, ils jouent.
Oui, mais quand tu joues à la maison, c'est facile. Toute la semaine, t'es chez toi.
Facile,
tu vas acheter le pain, on te parle, on sera là, truc. Donc
t'as
ta famille qui est là, t'as pas de motivation.
Grosse info, t'achètes le pain, toi?
Ben, on t'achète tous le pain.
Johan, tu as raison. Et à la différence, où cette équipe de bordelaise, a une confiance incroyable quand ils affrontent.
Elle se sublime, Denis, en Champions Cup.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est important. Alors, c'est vrai que
moi, j'avais bol.
C'est pas à domicile. Tu as raison, Johan, de le dire. Mais quand même, il y aura beaucoup de Bordelais quand même dans les tribunes, hein, il faut le dire aussi.
Oui, mais il y a beaucoup d'Irlandais aussi, hein, il y a des drapeaux et tout. Oui, en fait, les places, sachez que les places sont en vente depuis janvier. Donc, en fait, il n'y avait que 2000 places à chaque club après les demi-finales. Donc, il y a eu des déçus hein, donc, côté Bordelais. Les Irlandais ont une. Johan, tu sais que les Irlandais ont une culture de quoi qu'il arrive, ils achètent les places, ils vont en week-end à Bilbao et voilà. Donc,
exactement. Donc là, pour le coup, ils ont fait forte impression. Ils ont eu leur équipe, en plus de passer le week-end à Bilbao, ils ont leur équipe. Donc, pour moi, vraiment c'est un gros test pour ces Bordelais de se retrouver face au Leinster aujourd'hui, parce que c'est pas une mince affaire. Allez. On leur dit le Leinster est pas bien, ils sont pas au top, et ça malgré tout ça rentre dans la tête. Tu peux le dire, même si t'as la confiance, tu dis bon, cette année on peut le faire parce que cette équipe du Leinster elle est pas top, tu vois.
Ouais.
Et malgré tout ils sont en finale et ils ont pas perdu un match.
Le problème c'est que Johan il est Toulousain et tu sais qu'un Toulousain il se dit si encore il gagne un titre c'est pas possible.
Il a eu un coup de chaud là quand t'as dit ça là en studio, c'est arrivé d'un coup. Hein.
J'ai pas entendu.
T'écoutes plus Denis.
On va parler dans l'oreillette.
J'allais dire c'est pas le micro, c'est pas le casque qui marche plus.
Je comprends que pour un Toulousain ça pique si Bordeaux gagne à nouveau, quoi, tu vois.
Ouais, je comprends.
Oui, enfin, Toulouse en a 6.
On en a 4 d'avance encore.
Johan,
on en a 4 d'avance encore.
Johan, tu sais quoi, je te propose de faire une pause fraîcheur pour
non, c'est pas
bon.
Ça ira mieux. On est là, on discute.
Bon, dernière question, messieurs, ça se remplit du côté de Saint-Mamès?
Tout doucement. Je pense que les gens sont en train de faire du tourisme autour, là, tu vois, avec les tapas, les pink shows et les cagnas, comme on dit, c'est quelques bières avec modération, bien sûr.
Les Bordelais, ça sera un peu lourd.
Ou pas. Et voilà, ça se remplit doucement, mais ça va être magnifique. C'est la cathédrale de Saint-Mamès, c'est vraiment ça. Les tribunes sont abruptes, comme ça, là. On est très haut, là. Mais c'est un stade sublime.
C'est devenu aussi un vrai lieu pour le rugby. Merci, Wilfried et Denis. Pause fraîcheur pour vous. Et dans une demi-heure, vous attaquez avec Christophe Cessieux, bien sûr, à Saint-Mamès, à Bilbao. À tout à l'heure, les amis. La grande finale, c'est dans 1h17 précisément, 15h45, le coup d'envoi de ce Union Bordeaux-Bègles Leinster, la finale de la Champions Cup à vivre sur RMC. Merci Johan, bien sûr, on te retrouve pour l'avant-match dans quelques minutes. Nous, on va filer dans le nord de la France, dans l'intégral sport, puisqu'on va revenir sur les festivités du Racing Club de Lens. Ça continue cet après-midi, la grande parade après une nuit très très courte et le titre en Coupe de France face à Nice. Restez bien avec nous sur RMC.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
14h31 sur RMC. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. On est à 1h15 maintenant du coup d'envoi d'Union Bordeaux-Bègles Leinster, la finale de la Champions Cup à Saint-Mamès Bilbao. Vous le savez, RMC a déployé toutes ses équipes avec celles qui sont sur place, bien sûr à Bilbao, Nicolas Paolo Orsi, mais aussi Romain Asselin à Bordeaux pour faire monter la température avant cette grande finale. Je rappelle que Christophe Cessieux prend l'antenne dans moins d'une demi-heure maintenant. Ça sera une formidable après-midi pour vous sur
RMC. Mais en attendant, on va revenir au vélo avant de parler foot et revenir sur la soirée assez incroyable du Racing Club de Lens, victorieux de la Coupe de France hier face à Nice. C'est aussi la 14e étape du Giro. On est à moins de 85 km de l'arrivée maintenant. Grosse étape de montagne aujourd'hui, Johan Bredov.
Et encore 4 ascensions au programme, une de 3e catégorie, une de 1ère catégorie, une de 2e catégorie, puis 7 montées vers Pila, 16,6 km à 7% pour en terminer avec donc cette 14e étape. Toujours 23 hommes en tête, dont les Jonathan Narvaez, vainqueur de 3 étapes, Igor Arrieta, Jan Christen, voilà les coureurs du AE. Il y a également Henrik Maas, bref,
ça va bouger au classement aujourd'hui.
Ça devrait bouger au classement général. Normalement, Afonso Eulalio devrait perdre enfin son maillot rose, vu qu'il a gardé si longtemps déjà. Il aura résisté très longtemps à Jonas Vingegaard, qui fait office de grand favori d'ailleurs derrière, dans le peloton qui pointe à 2 minutes et 40 secondes. C'est bien la Visma Lisobike du Danois qui roule pour essayer de contrôler l'écart. On attend également beaucoup de Mathis Rondel, qui est le premier français au général, qui est 12e.
Merci Johan Bredov. On vous le disait, c'était une soirée de folie hier soir, non pas que au Stade de France, mais aussi à Félix Bollaert. Le Racing Club de Lens a remporté la première Coupe de France de son histoire en dominant Nice 3-1. Retour sur une soirée tout simplement folle dingue sur RMC.
Et même sur le banc de touche, hein, c'est en train de se tomber dans les bras. Ils ont compris, les remplaçants lensois, que le trophée n'ira nulle part ailleurs qu'à Lens. Et non, ils préfèrent faire défiler le chrono. Et il était en position de hors-jeu. C'est fini, c'est fini. La Coupe de France 2026 est au Racing Club de Lens. C'est lensois ont écrit l'histoire de leur club, puisque pour la première fois, Lens remporte la Coupe de France.
Ça, c'était bien après le coup de sifflet final. C'était au milieu de la nuit à Félix Bollaert. Et on se demande bien s'il a participé à cette chenille. Kevin Morand, bonjour, bonsoir. Je ne sais plus à quelle heure tu te couches, Kevin.
Alors, c'est presque la même journée qu'hier pour moi. Salut Alex, salut à tous.
T'as pu récupérer un petit peu après une nuit complètement folle du côté de Félix Bollaert, où on a fêté bien sûr ce titre en Coupe de France après l'avoir emporté au Stade de France. Les joueurs sont revenus. Raconte-nous les faits marquants de cette nuit qui ne s'est jamais arrêtée.
Ouais, c'est une habitude hein, qu'a pris le RC Lens depuis le titre de 1998. C'est retour au stade au milieu de la nuit pour fêter avec leurs supporters. Et donc hier, à 4h du matin, les joueurs et le staff sont arrivés en car pour ramener cette première Coupe de France aux 15 à 20 000 supporters qui les attendaient. Il y a probablement qu'ici qu'on peut voir ça au milieu de la nuit. La plupart avaient assisté à la retransmission sur écran géant à Bollaert. Mais il y en avait aussi qui rentraient de Saint-Denis en voiture. Le président Ougourlian a présenté le premier, la Coupe au stade, puis le trophée a rapidement été tendu par des dirigeants aux leaders du COP en tribune Marek, qui ont pu eux aussi tenir la coupe quelques instants. La fête a duré près d'une heure. Les joueurs ont chacun brandi le trophée devant les tribunes. Le coach Pierre Sage, le buteur Florian Thauvin et quelques autres cadres de l'équipe sont montés sur l'estrade des meneurs du COP sur les coups de 5 heures du matin. Cette grande chenille dont tu as parlé a été lancée dans les tribunes et sur le terrain avec l'ensemble des équipes de l'équipe, du staff, des dirigeants lensois. Une belle communion donc entre Nocturne pour conclure cette soirée historique pour les Saint-Or. Il faut aussi souligner que nous médias, on pouvait vraiment être au cœur de cette fête, sur la pelouse, près des joueurs, des dirigeants, une proximité qui reste permise par ce club et qu'il faut saluer dans la lignée de ces valeurs populaires qu'ils continuent de défendre avec ces résultats récents exceptionnels.
Absolument, c'est toujours apprécié. Je vous propose justement d'écouter des héros d'hier soir, Pierre Sage, le gardien Robin Risser et puis aussi le buteur Florian Thauvin.
Le fait de gagner cette coupe vient couronner une année magnifique. On aurait pu attendre plus encore, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, on sait qu'on peut être ambitieux.
C'est incroyable. Le club le mérite, on l'attendait, on l'a voulu et aujourd'hui, on l'a. On va bien profiter ce soir, demain, tout le week-end. Et après, les gars pourront partir en vacances tranquillement comme ils auront fait le boulot.
Une fierté, franchement, une grande, grande fierté. Beaucoup de bonheur, fier d'avoir de ramener cette coupe à la maison. C'est historique, c'est la première fois en 120 ans. On va inscrire notre nom au palmarès du club. On a rendu fiers nos supporters. Ils nous ont soutenus tout au long de la saison et on les a rendus fiers. Donc franchement, on est super heureux. Félicitations à notre équipe parce que c'est une saison incroyable.
Une saison incroyable avec une deuxième place en Ligue 1, synonyme de retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Une Coupe de France également et puis des noms forts, des moments marquants de la saison pour le Racing Club de Lens. Robin Risser le disait, Kevin, les festivités vont continuer. Hein. Il y en a qui vont profiter vraiment tout le week-end avant de partir en vacances. D'autres vont rejoindre bien sûr l'équipe de France. Mais quelle est la suite des festivités pour cet après-midi ?
Ouais, la nuit a été bouillante, la journée valait tout autant déjà parce qu'il fait 30 degrés cet après-midi ici à Lens. Et puis moins de 12 heures après l'avoir quitté, les joueurs sont de retour à Bollaert. Point de départ de la parade dans quelques dizaines de minutes. Ils défileront avenue de l'Hélice, rue Bollaert, deux anciennes figures lensoises qui donnent leur nom au stade. Le bus impérial rejoindra ensuite l'hôtel de ville pour une présentation de la coupe aux Lensois. Il n'y a que 32 000 habitants à Lens. Il y aura certainement beaucoup, beaucoup plus de supporters sans et hors dans les rues ici cet après-midi.
Et puis Kevin, bien sûr, n'hésite pas à revenir dans la chenille parce qu'il devrait y en avoir d'autres forcément cet après-midi. Même si couvre-toi avec le soleil qu'il y a. Merci beaucoup Kevin Morand. Récupère bien et on te retrouve tout au long de l'après-midi pour ces festivités lensoises. Merci Kevin, à tout à l'heure. On continue dans l'intégral sport après le football et les festivités du côté de Lens avec du tennis puisque les festivités démarrent demain pour Roland Garros, cette période de l'année que l'on apprécie tant avec le retour du soleil et bien sûr la terre battue. On file justement du côté de la porte de taille retrouver Anthony Reich pour RMC. Salut Anthony.
Salut Alex, bonjour à tous.
Et on entend déjà un petit peu d'ambiance derrière toi puisque le grand tournoi débute demain. Anthony, on va forcément prendre des nouvelles avec toi de deux noms marquants de la scène française puisque l'année dernière elle était demi-finaliste et puis lui malheureusement ça fait déjà un an mais qu'on était resté sur cette grave blessure pour Arthur Fils. Premièrement, revenons sur le 19e joueur mondial à l'heure actuelle qui va affronter lundi donc au premier tour rentrer dans son tournoi Stan Wawrinka. Il y avait beaucoup de flou autour de la situation d'Arthur Fils avant Roland Garros, avec notamment son départ à Rome qui avait été avorté son tournoi. Anthony, est-ce que tu peux nous rassurer? Il s'est entraîné de nouveau, Arthur Fils.
Ouais, c'est vrai qu'on l'a plus vu, comme tu disais, depuis son forfait là à Rome. Il s'est entraîné hier, une séance d'une heure à l'annexe Jean Bouin au stade en face de Roland Garros où il n'y avait pas énormément d'intensité, mais au moins il a pu taper la balle. Et il s'est à nouveau entraîné ce matin à 11h sur le court Philippe Chatrier. Cette fois, et non pas avec un sparring, mais avec Jiří Lehečka. Là, on est quand même sur du lourd, hein, top 30 mondial, évidemment. Une bonne séance, un set d'entraînement gagné par Arthur Fils 6-3. Il devait passer en conférence de presse à 14h lors du traditionnel Media Day, ce temps réservé aux médias en amont du tournoi. Et ce créneau a été décalé à 17h30, puisque Arthur Fils va taper une deuxième fois à 16h, cette fois-ci sur le Suzanne Lenglen avec Gaël Monfils.
Ah oui.
On en saura un petit peu plus. Franchement, ça ressemble aujourd'hui à une journée test. On va pas se mentir. Si en intensité il peut cumuler les deux séances, je pense que tout sera validé, tout sera ouvert. Marion Bartoli ce matin nous disait que tout allait bien. On a pas d'inquiétude plus que ça. On le voit taper pour les premières fois depuis hier. Donc il semble être opérationnel. En tout cas, il y a toujours eu beaucoup de flou effectivement depuis le début de la semaine.
Anthony, on rappelle que sa fracture de fatigue au dos avait été contractée au deuxième tour de Roland Garros. Il y avait eu ces longs mois d'absence pour Arthur Fils qui était revenu en boulet de canon après avoir perdu pas mal de kilos et qui nous avait franchement rassuré en début de saison et même épaté, on a envie de dire. C'est normal qu'on l'ait peut-être pas beaucoup vu ces derniers jours, dernières semaines, parce que ça reste le grand rendez-vous pour les joueurs français, que la pression est multipliée par 10 pour eux et que lui a quelque chose à faire valoir dans ce tournoi. Si le physique suit, Anthony, il peut changer de dimension avec ce Roland Garros.
Ah bien sûr. De toute façon, c'est le Français attendu ici à Roland Garros. Si on prend les résultats de la saison en cours, tu le disais, il a fait un comeback incroyable. Il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde sur cette saison. Donc c'est monstrueux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça sur la durée pour un joueur français. Il a été impressionnant à Barcelone, premier tournoi sur terre qu'il a remporté, un ATP 500. Il fait demi-finale au Masters 1000 de Madrid où il perd sur Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, et il a montré un niveau de jeu très impressionnant. Donc si son physique tient, effectivement, il fait partie des épouvantails du tournoi. Après, depuis le 9 mai, on ne l'a pas vu en compétition. Donc c'est là où il y a un point d'interrogation. Là, on va aussi passer dans la dimension des match en 5-7, donc physiquement s'il fait chaud il faudra voir si cela tient au niveau du corps pour Arthur Fils, mais si on se projette un peu, parce qu'on a envie de se projeter, là il y a ce premier tour face à Stan Wawrinka, on pourrait aller se projeter sur un éventuel huitième de finale face à un Alexander Zverev. par exemple, qui est tête de série numéro 2, numéro 3 mondial. Donc là, on va rentrer dans une altitude totalement différente. Et effectivement, s'il va loin en deuxième semaine, il aura déjà réussi son tournoi, ça c'est sûr. Mais il aura une dimension totalement différente dans le monde du tennis.
On a hâte de l'écouter, en tout cas, tout à l'heure, après sa session avec Gaël Monfils, hein, tu nous disais, bien sûr, Anthony.
Que j'irai suivre avec beaucoup d'attention.
Évidemment. On parle également de Loïs Boisson, puisque c'était une épopée fantastique il y a tout juste un an, jusqu'en demi-finale de Roland-Garros pour la joueuse française qui était au-delà de la 350e place mondiale, qui est désormais dans le top 50, Anthony. Mais problème, avant ce Roland-Garros, elle n'a que très peu joué, Loïs Boisson. Donc là aussi, on est un peu dans une situation de flou pour elle aussi.
Ouais, on est dans une situation de flou. Alors moi, je vais être très positif.
On l'aime bien.
Elle a regagné un match, et ça c'est quand même important. Elle a gagné à Strasbourg. Elle a pu enchaîner quelques matchs à Strasbourg au tournoi strasbourgeois en début de semaine. Donc ça c'est positif. Et j'étais à sa conférence de presse hier. Je l'ai trouvée souriante, détendue, impatiente de retrouver un peu cette magie qu'elle a vécue l'année dernière, et cette folie et cette épopée jusqu'en demi-finale. Et elle a quand même des ambitions, parce qu'elle nous l'a dit. Très clairement, je peux aller au bout comme je peux perdre au premier tour, parce qu'il y a ce manque de repères encore. Néanmoins, autre facteur intéressant, elle a repris l'entraîneur qui était à ses côtés la saison dernière à Roland, Florian Rennet, et qui est l'homme de sa réussite. Et elle nous a dit que tous les indicateurs autour d'elle étaient au vert. Il ne manquait plus qu'à que des victoires pour enclencher la machine. S'il y a une victoire au premier tour face à Kalinskaya, la machine, je pense qu'elle va à nouveau s'enclencher, et on aura certainement du très bon Loïs Boisson.
Et ouais, elle va affronter la joueuse russe tête de série numéro 22. Ça sera lundi également. On rappelle quand même qu'il y a 12 Français en lice, hein, Anthony, et que ça démarre dès demain avec des gros chocs, ouais, notamment pour Giovanni Péchi-Péricard face à Djokovic, ou surtout Benjamin Bonzi en début d'après-midi qui va affronter Alexander Zverev, qui est le deuxième favori désormais derrière Yannick Sinner, puisque Carlos Alcaraz, on le rappelle, est forfait. Hein.
Ouais, bien sûr. Ouais. Alexander Zverev, l'Allemand, est l'autre favori de ce tournoi, même si Yannick Sinner paraît un peu imbattable. Hein. Je l'ai vu beaucoup s'entraîner cette semaine. Le numéro 1 mondial est tout simplement monstrueux. Mais oui, affiche de gala pour Giovanni Péchi-Péricard, qui va jouer cette première night session du tournoi demain soir face à Novak Djokovic sur le court central. On aura beaucoup de Français demain sur les courts. Arthur Gia, par exemple, sur le Suzanne Lenglen, ou encore la jeune Xenia Efremova, tout juste 17 ans, qui est encore junior et qui va découvrir le grand univers des grands chelems en tableau final. Elle va défier une joueuse très dangereuse, la roumaine Sirstea. Et puis sur les autres cours, la belle histoire des qualifs, c'est Luka Pavlovic, le jeune français qui a réussi à s'extirper des qualifications et qui va jouer Fonseca, le très dangereux brésilien. Il y aura Pierre Hugerbert aussi sur le court, qui s'est sorti des qualifications. Beaucoup de Français dans ce premier dimanche. Ça va être un beau dimanche pour débuter le tournoi, et surtout avec une météo exceptionnelle, puisqu'il va faire très beau, très chaud jusqu'à au moins vendredi prochain.
Et bien sûr, vous ne louperez pas une miette de Roland-Garros sur RMC, puisque vous avez, en plus de l'antenne principale, vous aurez la radio digitale 100% Roland-Garros pendant cette quinzaine. Merci beaucoup, Anthony, et
avec
à très bientôt pour le début de Roland-Garros. Donc demain, le grand début des festivités dans un instant dans l'intégrale sport, alors qu'on est à 1h tout pile maintenant du coup d'envoi de Bordeaux-Bègles Leinster, la grande finale de la Champions Cup. Nous, on va se diriger vers le circuit Gilles Villeneuve, puisqu'il y a de la Formule 1 ce week-end, le Grand Prix du Canada. Ça sera demain soir à 22h. Toutes les dernières infos et tendances avec Jean-Luc Roy dans un instant. À tout de suite.
RMC Intégral Sport, Alex Biggerstaff.
14h47 sur RMC, grand après-midi de rugby, vous le savez, la finale de la Champions Cup, c'est dans moins d'une heure désormais à San Mamés, du côté de Bilbao, l'Union Bordeaux-Bec qui va tenter le doublé face au Leinster. Nous serons dans quelques minutes du côté de Bilbao avec Christophe Cessieux, avec Wilfried Templier, avec Denis Charvet, toutes les équipes déployées aussi autour du stade San Mamés, Nico Paolorsi, mais aussi à Bordeaux, Romain Asselin. Mais en attendant, on continue l'intégral sport avec de la Formule 1, et nous accueillons Monsieur Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Eh bien, bonjour Monsieur Alex et bonjour à tous.
Et ce week-end, eh bien, c'est déjà le 5e Grand Prix de la saison avec du côté du Canada, après l'étape de Miami, le Grand Prix du Canada, donc sur le circuit Gilles Villeneuve. Ça sera demain soir 22h. Ce soir à 22h, ce sont les qualifs, mais il y aura la course sprint avant. Et Jean-Luc, la question est simple autour de ce Grand Prix du Canada. À quoi doit-on s'attendre?
notamment du côté de Mercedes, puisqu'on ne parle que d'eux.
Alors oui, effectivement, si je te dis que la domination de Mercedes paraît s'étendre, je me base évidemment sur les premiers essais libres qui ont duré une heure et où on a vu évidemment Tonelli devancer Russell et puis après Hamilton, Leclerc. Et puis je me base également sur les qualifs de la sprint race. Il y aura 23 tours à parcourir tout à l'heure et cette fois c'est Russell qui devance Antonelli, Norris et Piastri. Si on rappelle que George Russell s'était imposé il y a un an, alors Russell pas très à l'aise à Miami, on s'en rappelle, hein, lors du dernier Grand Prix. Je pense que la pression est sur George Russell, évidemment, pour toutes les raisons que nous connaissons. D'abord, il a à côté de lui une véritable pépite hein, qui a aligné ce qui ne s'était jamais vu en Formule 1, 3 pole positions, dont la première de sa carrière, et 3 victoires. Quand on pense qu'aucun des champions formidables, à commencer par Hamilton, si on remonte, Schumacher, Senna, etc., personne, ou Fangio, personne n'avait réussi à faire ça. Donc il faut se dire que ce gamin de 19 ans, qui enthousiasmant déjà au plan de la personnalité, est vraiment promet beaucoup. Alors si jamais Russell se fait à nouveau damer le pion en course, il y aura déjà la sprint race pour se donner une idée, mais surtout lors du Grand Prix demain, ce sera très inquiétant pour les espoirs de titre de George Russell.
Alors Russell va être testé donc par son propre coéquipier, comme on a l'habitude depuis le début de saison. C'est quand même George Russell qui avait démarré le lot de victoires, puisque c'est lui qui avait remporté le premier Grand Prix de la saison avec la en pole, Australie, avec c'est vrai. Il connaît bien ce circuit, ça lui réussit en général, puisqu'il l'a déjà remporté l'année dernière, il avait fini troisième en 2024. Oui. Il a des sensations du côté du Canada, George Russell.
Oui, alors c'est toujours pareil. Moi, ça me surprend toujours un petit peu quand un pilote explique le fait qu'il est pas à l'aise par le fait que son pilotage ne correspond pas au circuit ou l'inverse, c'est comme tu veux. Non, mais c'est vrai parce que à ce niveau de talent d'abord, ce niveau de développement, ce niveau de technologie, ce niveau de réglage, on peut intervenir sur plein d'éléments maintenant sur une Formule 1. On peut se perdre aussi dans les réglages. J'ai un tout petit peu de mal à accepter cette explication. À George Russell, que j'aime beaucoup, hein, vraiment comme tout le monde, je dirais que ce serait légitime qu'il soit champion, mais là, il va avoir beaucoup de mal, parce que tu sais très bien que le principal adversaire d'un pilote de Formule 1, c'est naturellement son équipier, puisqu'il dispose non seulement de la même équipe, mais du même matériel. Et là, pour le moment, force est de constater, après ses premiers Grands Prix, que l'avance est considérable, hein, quand même, parce que...
Alors justement, derrière les Mercedes, Jean-Luc, parce qu'on ne va pas parler que d'eux, mais il y a quand même
des écuries
qui ont montré lors de ces séances d'essais quand même qu'elles avaient tenté pas mal de choses. Je pense au McLaren, je pense au Ferrari, oui. Sauf que l'écart est quand même important entre Mercedes et ces écuries-là.
Absolument. Alors on a apporté ou emmené ou appliqué beaucoup d'évolutions, comme tu le sais. On est encore en début de saison avec un nouveau règlement qui a été drastiquement modifié. Donc les équipes tâtonnent encore un peu et toutes n'avaient pas pu apporter à Miami les évolutions sur lesquelles elles ont travaillé pendant le fameux break, les 5 semaines, en cours de saison, ce qui n'était jamais arrivé. À cause, je crois qu'il faut maintenant parler de report, hein, on commence à avoir des bruits. Moi, je l'ai dit dès le début, j'ai dit que la Formule 1 n'allait pas se priver d'un peu plus de 100 millions de dollars, on les connaît. Donc, ils sont en train d'envisager une prolongation de la saison, enfin, je dérive, excuse-moi, mais c'est important, jusque peut-être pratiquement jusqu'à Noël. Après, on nous parle de la santé des équipes et des mécaniciens, tu comprends bien qu'ils en ont absolument rien à faire pour rester poli. Je reviens sur les évolutions. Tu sais qu'il y a des gens que j'aime bien dans la Formule 1. Je vais pas citer les noms, mais on les connaît. Donc, écoute. Oui, McLaren retour dans le coup, un début de saison difficile, c'était ta question. Il y a 2 ans, c'est à Miami qu'ils avaient éclaté. On les a vus revenir et bien se comporter en matière de sprint notamment. Là, ils sont dans le coup, ils sont pas très loin. Tu sais, après la clé sur un Grand Prix comme celui-là, avec un circuit atypique mais passionnant, hein, celui-là, c'est un circuit à l'ancienne avec peu d'appui finalement parce qu'il y a très grande ligne droite où il faut une grande vitesse de pointe pour pouvoir évidemment placer les attaques et dépasser, même si le feu le DRS a disparu, mais il y a d'autres systèmes. Et puis, il y a des parties avec des chicanes, donc il faut beaucoup de motricité. Puis, il faut un très gros cœur. Tu sais, il y a le fameux mur des champions où ils se sont tous emplâtrés il y a quelques années, parce que tous les champions du monde avaient fini dans ce mur. Donc, on avait rebaptisé.
Circuit qui a moyennement réussi aux Français lors des essais, à part Hadjar qui a fini 8e, devancé par Verstappen. Ça n'a pas été une bonne journée pour Ocon et Gasly.
Non, c'est un euphémisme. Ocon, ben, il est 14, c'est pas si mal parce qu'il devance son équipier Berman, ce qui est pas si fréquent en qualif, hein. En course, il est toujours meilleur, Esteban, mais en qualif, bon, je crois que la voiture valait pas beaucoup mieux, là, pour le moment. Quant à Pierre Gasly, ben là, lui-même n'a pas trop compris. Ils n'ont pas eu le temps de travailler en essai libre, comme ça n'a duré qu'une heure, tu le sais. Et il y a eu 3 drapeaux rouges, hein, faut le savoir aussi. Donc, la séance a été très perturbée. Donc, en fait, oui, Pierre part de très loin, un 19e sur la grille. Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. On se donne rendez-vous, Jean-Luc, à 18h donc, oui, pour la course sprint.
La course sprint.
Les qualifs 23 tours, ça va aller vite.
23 tours et les qualifs, c'est à 22h.
Ouais. Merci Jean-Luc Roy.
À tout à l'heure
donc, pour le sprint, la course sprint de ce Grand Prix du Canada. Nous, on va filer sur le basket maintenant avec un mot sur Wemby. Mais avant cela, c'est l'heure de remporter peut-être 10 000 euros pour vous sur RMC. C'est le grand jeu d'RMC, la liste des 26. Vous avez entendu l'alerte, c'est le top inscription. Ça veut dire que vous avez à partir de maintenant 5 minutes, seulement 5 minutes pour envoyer le mot liste au 732-16. Liste au 732-16. Vous avez 5 minutes, il est 14h53, 14h58, ça s'arrête pour intégrer les 26 des RMC, bien sûr, et peut-être remporter les 10 000 euros. Bonne chance à toutes et à tous. Magnifique transition, j'adore. On est au top du bruitage dans cette émission. C'est pour accueillir Monsieur Félix Gabory, The American Cat, qui est avec nous en direct du Texas. Salut Félix.
Salut Alex, salut tout le monde. Quelle présentation.
Ah oui, bah c'est du bruitage, je vais te dire, c'est très très fort. Bon, les Spurs qui ont perdu la nuit dernière, tu y étais sur place Félix, dans cette finale de conférence Ouest face à Oklahoma City, 123-108, le champion en titre qui commence à placer le curseur de l'intensité un peu plus haut, notamment en défense, et forcément ça crée des problèmes à Victor Wembanyama, mais surtout ses coéquipiers.
Ouais, Victor Wembanyama, il a été plutôt bon, plutôt impactant hier, 26 points, c'est le meilleur marqueur des Spurs. Mais comme tu l'as dit là, le problème là où les Spurs ont un peu pêché, c'est sur l'apport du reste de l'équipe autour de Wembanyama, qui s'est senti un petit peu seul, notamment les points du banc, les points venus des remplaçants. L'écart sur le match, il est absolument colossal entre d'un côté les remplaçants de OKC qui ont fait un boulot absolument monstrueux, qui ont aidé à faire grimper cet écart. On peut notamment parler de Jared McCain, le meneur d'Oklahoma City en sortie de banc, qui a fait un sacré chantier. Et de l'autre côté, les Spurs, eux, ils ont été... Wemby a été un peu moins aidé justement par ses coéquipiers, alors qu'il y a quand même Keldon Johnson qui est le meilleur sixième homme de l'année, qu'on ne retrouve pas vraiment dans cette série. Et justement, Victor Wembanyama se sent un petit peu seul. Victor Wembanyama qui en a parlé de sa frustration un petit peu... en conférence de presse après le match, il a notamment expliqué qu'il devait faire plus pour prendre ses responsabilités un petit peu plus tôt. On peut l'écouter.
Cette expérience évidemment très précieuse, sans rentrer dans les détails. Et par rapport au tir, je pense que je vais aussi devoir prendre ses responsabilités plus tôt. Et en fait, mieux reconnaître quand est-ce qu'il faut plutôt playmaker et quand est-ce qu'il faut juste marquer, quoi.
Et quand il dit playmaker, c'est quand il faut reconnaître faire jouer ses coéquipiers, ou quand il faut qu'il y aille tout seul, bien sûr, pour marquer. Bon, il a toujours aussi l'appui, le soutien d'une légende des Spurs, c'est Greg Popovich, hein.
Ouais, justement, quand il parle de au tout début du son là de la petite expérience, c'est évidemment de Greg Popovich, le coach légendaire de San Antonio Spurs, l'homme qui a gagné, qui était à la tête de l'équipe pour les 5 titres de la franchise à l'époque de Tony Parker, de Tim Duncan. Greg Popovich s'est retiré du coaching il y a un petit peu plus d'un an, mais il n'est jamais loin de cette équipe. Hier, j'étais au centre d'entraînement quelques heures avant le match, et il y a une scène qui était assez marquante. On a pu voir Victor Wembanyama échanger pendant de longues minutes avec Popovic. Ils étaient assis sur un banc près du parquet sur la salle d'entraînement. Popovic qui sûrement devait lui donner énormément de conseils pour savoir comment aborder cette série face à OKC qui est champion de titre, et OKC qui laisse vraiment vraiment pas grand chose aux Spurs. Hier pourtant, les Spurs dans une ambiance qui était une ambiance de dingue, hein, franchement. Alex, j'ai eu la chance d'avoir vu déjà plusieurs matchs ici à San Antonio, des matchs de saison régulière. J'étais notamment là pour le début de la saison où il y avait un gros engouement, mais c'était absolument rien par rapport à l'ambiance démentielle qu'on pouvait avoir hier pour ce premier match à domicile des finales de conférence.
Et il faut l'ambiance que tu vas revivre dans la nuit de dimanche à lundi pour le match 4 de cette série qui est souvent décisif dans une série de play-offs. Merci beaucoup Félix Gabory en direct de San Antonio au Texas pour suivre Victor Wembanyama et les Spurs menés donc 2-1 maintenant dans cette finale de conférence Ouest. 14h57, un
merci
dernier
Alex.
Petit mot. Salut Félix, un dernier petit mot de Giro avec Johan Bredov à moins de 70 km de l'arrivée.
69 km donc avant l'arrivée, un homme en tête, Igor Arrieta, qui est passé en tête de la deuxième ascension du jour. Ils sont 13 hommes en tête avec 15 secondes d'avance sur les autres échappés tout à l'heure et 3 minutes 30 sur le peloton du maillot rose porté par Afonso et Eulalio, mais c'est l'équipe de Jonas Vingegaard qui roule.
Merci Johan, l'intégral sport continue dans quelques minutes bien sûr avec cette présentation en long et en large de la finale de la Champions Cup, coup d'envoi 15h45 sur RMC, l'Union Bordeaux-Bègles pour le doublé face au Leinster. On l'espère, on va vivre ça tous ensemble. Christophe Cessieux, Wilfried Templier, Denis Charvet, tous nos reporters, c'est dans un instant sur RMC. Très bon après-midi.